messieurs, bonjour, bienvenue à ce troisième épisode, troisième saison de ce podcast Sortie de zone. Nous sommes en compagnie de Philippe Quentin, Alexandre Pratt, les gars de la presse. Salut messieurs.
Salut Jérémy.
Collègue du 98.5 FM, Jérémy Filosa qui est avec nous. Salut Philo.
Salut.
Bon messieurs, ça va bien, la saison est débutée, tout le monde est heureux, sauf l'organisation du Canadien, qui après deux matchs n'a toujours pas vu de victoire. Hier, c'est une défaite de 5-1 face au Sabres de Buffalo. Dans un match extrêmement difficile, je fais un tour de table et je commence avec Philo, avec toi. Deux défaites en ouverture de saison, comment tu vois la situation? Est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on se calme? Est-ce qu'on chill out, comme Carey Price l'a dit? Qu'est-ce que tu fais?
Ouais, écoute, je pense qu'on s'attendait pas à un énorme début de saison du Canadien. On en a parlé la semaine dernière là que le camp d'entraînement avait pas été extraordinaire. Mais moi, j'ai vu des choses qu'on a vues la saison dernière qui étaient problématiques, c'est-à-dire on va pas dans les zones payantes, on va pas dans les zones dangereuses. Pas assez de tirs qui viennent des endroits, tu sais, de l'enclave et tout ça, donc des tirs en périphérie. Ça, c'est des mauvaises habitudes qu'on avait pris l'année passée, puis ça me dit que c'est une équipe qui est pas encore... Ils sont pas encore dedans. C'est comme si, dans leur tête, la saison est pas encore véritablement commencée. On est encore, on dirait, en camp d'entraînement dans leur tête, mais clairement, les autres équipes, eux autres, la saison est partie pour vrai.
Ouais, Philippe Quentin?
Chill out, c'est certainement pas une option. Là. Moi, au contraire, je suis assez inquiet parce que le Canadien a eu du succès en séries éliminatoires, c'est certain, puis j'ai l'impression que ça maquille peut-être un peu le réel portrait de l'équipe. Bon, d'abord, on le sait tous, il y a des absents importants, à commencer par Carey Price. Price, pour moi, c'est une absence qui joue des deux côtés. C'est-à-dire que ça influe le moral de l'équipe parce qu'il rend les autres meilleurs et c'est le gardien de but qui arrête tout, qui donne confiance à ses coéquipiers. Puis d'autre part, il instaure le doute chez les rivaux. Tu sais, quand tu joues contre Carey Price, ben ça se peut que tu précipites un petit peu ton lancer, ce que tu feras pas nécessairement contre Jake Allen.
Ce que Shea Weber apportait également en défensive, malgré le fait qu'il a ralenti, amenait à une période d'hésitation. Quand même.
Oui, c'est très certainement, notamment en raison de son jeu très, très dur et ses nombreux doubles échecs. Et si on applique plus le règlement cette année, j'ai l'impression qu'il aurait été puni assez souvent, mais enfin, on n'en est pas là. Un mauvais début de saison dans la Ligue nationale, ça pardonne rarement. Les Blues de Saint-Louis en 2019 sont peut-être l'exception, mais le Canadien a eu bien des ennuis quand il a mal commencé l'année. Alors, ça prend un redressement très, très, très rapide. Puis, il faudrait que ça commence dès demain contre les Rangers avec au moins là, une performance convaincante. Mm-hmm. La victoire est peut-être pas nécessaire à tout prix, mais il faut un effort, faut quelque chose sur quoi bâtir.
Alexandre?
Ben, on se demandait la semaine dernière, est-ce que le Canadien est prêt à amorcer la saison? On répondait non, ben là, je pense qu'on s'est pas trompé. Mm-hmm. Puis je continue à penser qu'ils ne sont pas prêts pour cette saison-là. D'abord, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a 9 joueurs qui jouaient contre les Maple Leafs là, dans le match 7 qui n'étaient plus là, je veux dire, pour le premier match contre les Maple Leafs. Et ça paraît, la mayonnaise, elle prend pas. Il y a aucune cohésion, mais nulle part, sauf peut-être entre Anderson, puis Drouin, puis Devereux, mais ailleurs, il y a aucune mayonnaise là, je veux dire, qui prend. Là. C'est terrible. Les relances sont épouvantables. Il n'y a pas de jeu de transition efficace. Les joueurs tirent de loin. Ils réduisent pas l'écart quand les joueurs adverses rentrent. Et surtout, en fait, tout ce qui est préparable, ça va mal. T'sais, donc, les situations les plus préparables, c'est l'avantage numérique. Vous avez la rondelle, tu peux être capable de planifier tes jeux. Il se passe rien. rien. C'est très inquiétant. C'est le troisième là, balado que je fais tout de suite. Puis à chaque fois, je dis, cette équipe-là est limitée défensivement. T'sais, à cause du départ de Dano, à cause des absences d'Edmondson, de Price puis de Weber. Puis là, on le voit vraiment. Là. Moi, je trouve que c'est une équipe qui a pas de cohésion et ça va prendre du temps avant que ça revienne, malheureusement. Mm-hmm. Hoffman n'a toujours pas pratiqué là, avec ses coéquipiers. Mm-hmm. Edmondson n'est toujours pas là non plus. Donc, je pense qu'on s'en va vers un chemin sinueux.
Jamais dans 100 ans, j'aurais cru qu'Edmondson est aussi pratique qu'une équipe, une formation.
C'est normal.
Quand il est pas là, c'est là que tu te rends compte que le duo formé avec Jeff Petrie permettait à Petrie également d'avoir un peu plus de repos, de calme, parce que tu sais que l'autre est capable de sortir la rondelle également. Moi, je vois deux choses qui sont très, très problématiques, puis je veux qu'on prenne le temps d'en parler. On est incapable de sortir la rondelle du territoire du Canadien. Ça, c'est... Puis souvenez-vous comment Carey Price facilitait le travail de ses défenseurs. Jake Allen, on lui a demandé de sortir un petit peu plus pour relancer, donc c'est très difficile. On sort pas la rondelle. Et je pense que le collectif... Ben, j'enlève l'attaque. L'option attaque, je pense que, exemple, un Caulfield de ce monde ou un Suzuki va trouver le moyen de marquer des buts un moment donné. Je sais pas quand, mais ils vont marquer des buts. Le collectif, là... Quand ça se transporte là, ça va en territoire adverse. Quand ça revient croche là. C'est pas une mauvaise couverture. On est disloqué. On laisse tellement d'espace à l'équipe adverse pour rentrer en pleine vitesse, ça devient compliqué. Mais ça, pour moi, c'est des choses qui mécaniquement se corrigent. Si ta présence d'esprit est là, si ton niveau de compétition est là, ça se corrige ces choses-là. Combien de temps ça va prendre? J'ai aucune idée.
Souviens-toi que l'année passée, lorsque Dominique Ducharme est arrivé, ça avait été quand même assez croche les premiers matchs. Puis là, il y avait une petite pause. Je pense que le Canadien avait une semaine de congé. Ouais. Et ils sont revenus. Et là, ben, ils avaient corrigé plusieurs de ces aspects-là.
On avait fait du positionnement sur la patinoire. Les gars, un genou à terre. Puis toi, tu vas là. Toi, tu vas là.
Et là, Dominique Ducharme nous a dit, après l'avant-dernier match jusqu'en entraînement, on a beaucoup de travail à faire en défensive, il avait dit. Puis là, après le dernier match, il y a quelqu'un qui lui a reposé la question. Sentez-vous que dans ce dernier match-là, vous avez fait du progrès, vous avez avancé. Puis, tu sais, tu peux voir dans son visage que c'était comme oui, mais pas vraiment beaucoup. Donc, je pense qu'on savait qu'on s'en allait dans cette direction-là. Tu sais, hier, j'ai regardé le match avec mon fils, puis là, il dit, c'est qui le carrière sur l'avantage numérique? Là, Wiseman, il dit, il vient de où, lui? Ben, il était encore à HL l'année passée, puis il dit, OK, puis si on compte sur lui, là, pour la... Okay.
Ben Brunet a dit quelque chose à RDS, il dit, de la KHL au premier avantage numérique chez les Canadiens, ça, il y a juste ici beaucoup, que ça peut se passer. Mais, tu sais, je pense qu'il faut donner peut-être un petit peu plus de responsabilité à Jeff Petrie là-dessus.
Mais Petrie oublie pas, c'est un gars qui, dans une saison, a des hauts et des bas. Hein. C'est pas vrai que Jeff Petrie, là, il a eu une bonne saison l'an dernier, mais c'est pas vrai qu'il était exceptionnel du début à la fin. Il y a eu des périodes où ça a été beaucoup plus difficile.
Mais plus de haut que de bas.
Même plus de haut que de bas.
Même son bas est meilleur que
oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que Petrie peut vraiment être le leader de la défensive du Canadien, d'être celui vers qui tout le monde, autour de qui tout le monde se regroupe et tout? Moi, je suis pas convaincu que c'est dans sa nature d'être comme ça.
Il n'y aura pas le choix.
Honnêtement,
ça va être ça son rôle.
Peut-être, mais s'il n'est pas capable.
Ça se peut.
Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment difficile avec Petrie, c'est sur l'avantage numérique. Le nombre de tirs qu'il a effectués qui ont été bloqués dans les deux derniers matchs, ça, c'est inquiétant. Parce que si c'est lui qui prend tous ces tirs-là, puis Drouin le cherche constamment là, sur la glace, là, si c'est lui qui prend les tirs, ça veut dire que le système de jeu du Canadien repose sur des tirs de loin de Petrie comme il reposait avant sur Weber. Ils se rendent pas les tirs, puis on en a parlé l'autre fois, donc, mais dans ça là, la solution c'est peut-être de tirer à côté puis de prendre des rebonds, mais pour l'instant ça se fait pas. Le Canadien ne se rend pas au gardien adverse en avantage numérique. Je trouve que de ce côté-là, Petrie présentement c'est mal parti. Il va y avoir des gros ajustements à faire là, sur l'avantage numérique.
Quand Dominique Ducharme disait après le match, ça fait 3 mois qu'ils se font dire qu'ils sont bons. Ça, quand j'ai entendu ça, j'ai fait OK, là on commence déjà à lancer un message. En fait, on fait appel au niveau de compétition qui n'est pas là. Comment vous traduisez ça dans le jeu? Qu'est-ce que vous voyez ou vous voyez des joueurs qui se pensent peut-être un peu meilleurs qu'ils sont?
Moi, je pense que c'est la condition humaine, malheureusement. T'arrives dans une finale de Coupe Stanley un peu inattendue. Là, t'as un été très court. Pour te remettre dans le bon état d'esprit pour dire, OK, on compétitionne pour essayer de retourner là où on était il y a 2 mois où, malheureusement, on l'a échappé. C'est pas facile. Mais puis comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas exactement la même équipe. Fait que c'est pas tous ces joueurs-là qui se sont fait dire qu'ils sont beaux, puis qu'ils sont fins, puis qu'ils sont capables. Parce qu'il y en a pratiquement la moitié qui était pas là l'année passée. Donc, mais c'est sûr que c'est un message clair qu'il lançait. Tu sais, quand il a dit, c'est comme ton enfant, tu lui dis, mais mets pas ta main sur le feu, mais à un moment donné, il va le faire pour voir c'est quoi. Tu sais, ça veut dire que je leur ai dit, faites attention, tombez pas dans ce piège-là. Mais ils sont en train de tomber.
Philippe, qui se trouve bon?
C'était un peu étonnant comme commentaire de la part de Dominique Ducharme, là, je dois l'avouer, parce que c'est ça, je regarde un peu les commentaires des analystes autour du camp d'entraînement, à peu près tout le monde doute de la participation du Canadien aux séries éliminatoires. T'sais, en tout cas, c'est certainement pas pendant le camp d'entraînement qu'ils se sont fait dire qu'il était extraordinaire, puis encore moins après toutes les blessures. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu de psychologie là. Ducharme a voulu essayer, il sait bien que ce commentaire-là va se rendre à ses joueurs et tout. Mais moi, ce que j'ai moins aimé là, dans le rendement du Canadien, je pense à un gars comme Suzuki. Suzuki va falloir qu'il performe comme le joueur que le Canadien vient de nous dire qu'il est. Le Canadien vient de nous dire, de nous annoncer cette semaine que c'est une méga star de la Ligue nationale. Quand tu as un contrat comme ça, tu es une méga star de la Ligue nationale. Tu es dans la deuxième rangée. Là. Dans la première, il y a McDavid, puis Crosby, puis tout ça. Puis là, mais dans la deuxième, tu as les gars qui sont des joueurs de centre à 8-9 millions. Je comprends qu'il ne fait pas ça cette année. Là, ça sera à partir de l'an prochain, mais il est étiqueté maintenant 8 millions par année là, dans l'esprit des gens. Et moi, j'ai pas trouvé là, que les deux premiers matchs, match là, Suzuki là, il nous a montré là qu'il voulait vraiment assumer ce rôle là, qui tu sais, je comprends que son rôle c'est pas de foncer dans les coins et le bâton à l'air. Je comprends tout ça, mais même au niveau du rythme, il a pas donné de rythme. Alors, ne donnant pas de rythme à son trio, ça a été beaucoup plus difficile pour Caulfield, qui va être probablement plus surveillé. Oui. Il y a l'effet surprise avec Caulfield, il est disparu. Alors moi je pense que si on veut assister à un réveil du Canadien, ben ça va passer notamment par une performance un petit peu plus coup de poing de Nick Suzuki.
Dis-moi, Alexandre, est-ce que les deux poches d'argent de 8 millions de dollars sont trop pesantes sur les épaules de Suzuki?
Moi, je suis plutôt confiant.
Ça prend des grosses poches d'argent. Ouais, là, 8 millions, là, c'est pesant.
Je suis capable d'en prendre.
Mais je pense qu'ils font des virements électroniques.
Il y en a même qui payent en crypto-monnaie. Enfin, mais pas le Canadien, je pense. Je pense que Suzuki va être capable de supporter cette pression-là. Mais c'est sûr qu'il fait partie des joueurs qui ont été visés hier. Puis, tu sais, pour que Dominique Ducharme se rende là si tôt dans la saison, c'est que ça doit être un message qu'il essaie de passer depuis le début du camp d'entraînement et que ça ne fonctionne pas depuis maintenant. Un mois, ça a pas bien été le camp d'entraînement, là. Des défaites où ils ont donné 6 puis 7 buts, il y en a eu, tu sais. Je pense que parmi les joueurs visés, clairement, il y a Jake Evans. Ça va pas du tout. Je veux dire, il gagne pas de mise au jeu. Quand il est sur la patinoire, l'équipe a jamais la rondelle, tu sais. Les joueurs visés, à mon avis, sont des joueurs, donc, qui étaient là en finale de la Coupe cette année. Yoel Armia, hier, il s'est fait descendre aussi, là, sur le quatrième trio. À un moment donné, c'était Mathieu Perrault qui était rendu sur le premier trio à la place de Cole Caulfield. Mathieu Perrault sur le premier trio, même dans les prédictions les plus audacieuses et folles qu'on aurait pu publier ou écrire ou dire avant la saison, il y a personne qui aurait prévu Mathieu Perrault sur le premier trio après deux parties. Donc, je pense que ce sont plutôt ces joueurs-là qui sont visés présentement. Tu sais, c'est pas normal que le troisième trio du Canadien ait jamais la rondelle. Jamais, je veux dire. Jamais.
Ça tourne beaucoup dans le territoire du Canadien. Ça, c'est une grande problématique. Messieurs, dans le vestiaire de l'équipe du Canadien de Montréal, il y a le fameux slogan « Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous de le porter bien haut ». Moi, j'enlèverais ça, clic, 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 j'enlèverais ça et je mettrais au pic et à l'appel. Parce que le Canadien va connaître du succès lorsqu'il travaille comme un col bleu, pas comme un col blanc, au pic et à l'appel. Faut que tu sois à la hauteur du talent que tu as. Ça veut dire... Il y a des gars qui ont du talent, mais c'est pas généralisé. Si tu travailles pas, Carbonneau l'a dit, si tu travailles pas, tu gagneras pas. C'est ça l'histoire du Canadien. Vas-y, Alexandre.
Un très bon exemple hier, c'est les Sabres de Buffalo. Je veux dire, sur papier, c'est une équipe de la Ligue américaine, puis même pas une bonne équipe de la Ligue américaine. Là, mais hier, eux, ils ont travaillé au PQ.
Avec 6000 spectateurs dans les estrades.
Ouais, non.
Inquiétant, ça.
Là, j'ai demandé à Philo tantôt, avant qu'on commence à enregistrer, j'ai dit, est-ce qu'il y avait avait-tu des conditions particulières? Le monde pouvait pas y aller. Il y avait juste 6000 personnes.
Moi, j'ai un ami qui a des billets de saison, là, puis aussi pour les Bills de Buffalo, il y a beaucoup de Canadiens là, qui vont voir ces matchs-là habituellement et présentement traverser la frontière terrestre, c'est pas possible. Donc, il y a peut-être un petit effet de ça là, quand même. Là. Mais donc, on l'a vu hier.
Mais il y a un autre facteur, si tu permets, sur l'assistance à Buffalo, là, c'est que je disais hier que leur base de billets de saison est à 6500. Ça n'a pas été faible de même, je pense, de leur histoire. Alors là, il faut que tu attires du monde en plus des 6500. Il y a déjà eu une époque, il y avait des listes d'attente à Buffalo pour avoir des billets de saison.
Mais là, ça fait 11 ans que ça pas les séries.
Exactement.
11 ans.
Le produit n'est pas bon. Là.
Non, le produit n'est pas bon. Puis, tu sais, on le levait avec les Panthers, la Floride, c'est extrêmement dangereux pour une organisation de devenir moribonde comme ça, parce que pour reconvaincre les partisans de revenir après autant d'années où ça a été mauvais, c'est très difficile.
Mais ça, en frère, hier, ils avaient une équipe sympathique à regarder, là, pour vrai.
Le meilleur club était à Buffalo.
Les Sabres de Buffalo.
Pas à Buffalo, mais c'était les Sabres de Buffalo.
Non, mais je veux dire, ils se donnaient à fond. C'était un peu drôle. Il y avait un petit peu l'ADN du Canadien l'année dernière en série. C'était plutôt intéressant, je trouvais, comme revirement de situation. Donc, oui, moi aussi, je suis d'accord. Le Canadien, c'est un club de col bleu, faut pas qu'ils pensent que ce sont des PDG d'entreprise là, pour l'instant.
Non, il n'y a pas de Malkin et il n'y a pas de Crosby là-dedans. Je pense que ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, c'est difficile à 5 contre 5. C'est difficile en avantage numérique. C'est difficile en double avantage numérique. C'est difficile en désavantage numérique. Vous faites partie de l'équipe de coach. Là. Vous êtes en train de prendre un café. Ça fait 8 heures de temps que vous êtes là dans le bureau parce que vous ne trouvez pas de solution. Quelle est la priorité? Qu'est-ce qu'on doit corriger le plus rapidement possible? Le 5 contre 5 ou les unités spéciales? Philo?
Ben, moi, je pense que c'est l'avantage numérique, mais tu sais, on se répète, là, parce que ça date pas de cette année. C'est un problème qui date d'il y a plusieurs années. Et quand on regarde des équipes adverses qui s'installent dans le territoire du Canadien, ce qu'on remarque, c'est la vitesse d'exécution. Si tu veux déjouer la boîte qui est en avant de toi, il faut que la rondelle se passe très rapidement.
Mais la rondelle, elle bouge, là. Honnêtement, présentement, la rondelle bouge.
Elle bouge.
On ne conclut pas, mais la rondelle bouge.
Mais elle bouge pas aussi rapidement que les bonnes équipes en avantage numérique. Et, tu sais, on tente les passes en périphérie, on a le corps arrière en haut, les gars sur les côtés, mais t'as deux gars en avant, on les utilise très peu et on n'arrive pas à placer la rondelle. Moi, je l'ai toujours dit, puis c'est une affaire que j'ai jamais compris. T'as un avantage qui te dure 120 secondes. t'as 120 secondes pour marquer ton but, sinon après ça, t'as manqué ton coup. Et souvent, je trouve que les gars en avantage numérique prennent leur temps. Trop. T'as 120 secondes. Dépêche-toi, installe-toi et le plus rapidement possible, essaye de décocher un tir, essaye d'avoir une rondelle déviée parce que souvent, tu regardes l'horloge et tu dis ben, une minute vient de passer, on n'a pas un tir. Ben, c'est gaspillé complètement.
Le 5 contre 3 dans les deux matchs contre Toronto et Buffalo, ça, c'était pathétique. C'était, Philippe, on corrige quoi en premier? Là?
Ben, l'attaque massive, il faut que tu profites de tes attaques massives parce que quand t'en profites pas, c'est encore le double effet. C'est-à-dire que l'adversaire, il est content, ça donne un boost psychologique à l'adversaire, puis le Canadien qui a déjà de la misère, ça le rend encore plus inquiet, un petit peu plus nerveux, puis on va précipiter plus les gestes. Alors, pour moi, c'est clairement la première chose qu'il faut régler. Puis là, tu sais, ça a été criant le 5 contre 3 pendant quoi? 1:40 à Toronto. Hier, c'était quoi? 35-40 secondes, encore une fois. C'est des occasions en or. Même des 5 contre 3, on n'en voit pas tant que ça dans la Ligue nationale là, au fil d'une saison.
T'en as deux en deux matchs.
T'en as deux en deux matchs, c'est inespéré. Alors, fallait que t'en profites. Mais je trouve que, Jérémy, tu le mentionnais, c'est un problème récurrent chez le Canadien. Il manque d'originalité. T'sais, quand Weber était là, ben, tout était fait pour que Weber décoche son tir de la pointe. Puis là, je sais pas si on essaye un peu le même jeu avec Petrie, ouais. Mais je trouve que, oui, la rondelle circule, mais il y a beaucoup d'immobilisme. On dirait que les joueurs ont les pieds sont là, puis ça bouge pas beaucoup.
On s'ennuie d'Andrei Markov.
Ouais, ouais.
Bon Andrei Markov.
Ouais.
Peu importe avec qui il jouait, on finissait par marquer des buts, que ce soit Surrey, Stride, peu importe.
C'est sûr que Markov, Surrey, c'était assez solide. Là. Tu mettais ça. Sauf que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on met 4 attaquants, puis ça double la possibilité d'avoir des lancers sur réception, mais là, on ne lance pas.
Fait
que t'as beau bouger à rondelle, si tu lances pas, ça sert pas à grand-chose. Alexandre, on corrige le 5 contre 5, l'avantage numérique, désavantage numérique, qu'est-ce qu'on fait?
Ben tout, là, mais le 5 contre 4, clairement. Parce que, comme je disais tantôt, c'est une des rares situations où c'est toi qui l'as la rondelle. Tu peux décider ce que tu fais. Tu sais, à 5 contre 5, tu as la rondelle la moitié du temps, puis à désavantage numérique, tu l'as pas. Là, c'est toi qui contrôle le jeu. T'sais. Alors, il y a des gros problèmes. On l'a vu, là, Armia, quand il était sur l'avantage numérique, il prend bien trop de temps à lancer. D'ailleurs, il s'est fait sortir de l'avantage numérique. Il y a une raison pour laquelle on a envoyé Perrault à sa place. C'est inefficace. T'sais, la seule affaire qui va plutôt bien dans l'avantage numérique, c'est Drouin qui promène vraiment bien la rondelle. Lui, il a distribué. Ça, c'est pas un problème, mais il joue sur la barre de la bande. Il est pas impliqué directement proche du filet. Mais tout le reste, il y a rien qui bouge. Il faut vraiment que le Canadien construise un schéma différent. Puis je comprends que ça va changer quand Mike Hoffman va être là. Mike Hoffman est supposé être le tireur élite comme Caulfield, mais Caulfield, on ne le trouve pas là présentement sur l'avantage numérique. Là. Pas du tout. Donc ça, c'est une situation de jeu que tu contrôles. Qui est changeable. Je veux dire, c'est toi qui décides le schéma. Alors que les autres systèmes, t'es dépendant de l'autre équipe.
Bon, moi, je serai le pisse-vinaigre dans ce meeting de coach que nous avons parce que moi, je vais y aller avec le désavantage numérique. Le Canadien a accordé des buts en désavantage numérique et ça, pour moi, c'est pas parce que l'équipe adverse était trop dominante. OK, on va dire que Toronto sont quand même bien, là, mais c'est pas que l'équipe adverse est trop dominante, c'est qu'on manque juste de conviction. Tu sais, le désavantage numérique, là, t'as pas besoin d'être ingénieur pour être là. T'as besoin d'être convaincu et combatif. Fait que quand tu vois que ton désavantage numérique, souvenez-vous, dans les séries, comment le désavantage numérique fonctionnait bien. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on était prêt à arrêter la rondelle avec nos dents. Et là, au match 1 et 2, on n'est pas prêt. Fait que donc, ça revient toujours à la question qu'on avait, est-ce qu'ils sont prêts à compétitionner? Là, on a la réponse. Dans les deux premiers matchs, ça a été non. Il y a eu des portions, mais pas sur 60 minutes. Et quand t'es capable de bien faire en désavantage numérique, au moins, tu te donnes une chance de gagner un peu plus. Ouais. Si t'accordes des buts en désavantage, ça brise le momentum, ça brise l'émotion que t'as besoin dans un match.
Je suis d'accord, Jérémy, mais je trouve que le Canadien a le moral fragile. Tu sais, quand t'entends, après le premier match, Dominique Ducharme dire avec raison, hey, on a connu un fort début de match, c'est tout à fait vrai, le Canadien a commencé la rencontre à Toronto, ça y allait, beaucoup plus de lancers que son adversaire. Mais il dit après, il dit les livres sont scorés, puis ça nous a mis à plat. C'est pas normal. C'est pas normal.
Il y a un problème de leadership actuellement dans l'équipe, ça va de soi.
C'est pas supposé se passer de même. C'était pas un but avec 3 minutes à faire.
Problème de leadership où tout le monde regarde à peu près tout le monde savoir qui va commencer. L'an passé, puis on en parlait en désavantage numérique, l'an passé en saison régulière, le Canadien était efficace à 70%. En série, c'est 91%. 78% et en série, c'était 91%.
Tu vois. T'as eu une série de je sais pas combien d'avantages numériques.
Quasiment une vingtaine.
Mais tu sais, pour moi, la grande différence entre les deux unités spéciales, c'est en avantage numérique, théoriquement, ils ont les munitions pour faire mal. Ils en ont, là, des tireurs. Ils en manquent pas. En désavantage numérique, regardez les joueurs là, qui ont fait que ça a bien été l'année dernière. Dano, Byron, Edmondson, Weber, Price. Il y en a un sur 5 ou 6 qui est dans l'alignement présentement.
Ben Chiarot aussi.
C'est pas facile.
Tu sais, Ben Chiarot, là, honnêtement, depuis le début de la saison, même dans les matchs pré-saison, là, je sais pas, lui, il souffre de la perte de chez Weber.
Puis des mauvaises punitions aussi.
Mauvaise pénalité, vous l'avez mentionné.
Il était à sa dernière année de contrat aussi.
Exact. Avec un DG qui n'a pas de contrat. Bon. Bref.
Ah, il n'y a pas de contrat pour l'an prochain.
Non, apparemment. Ah, okay. Mais il fait sa job business as usual. Il a signé un gars pour 8 ans. Messieurs, avant qu'on prenne une première pause, samedi demain, c'est le match d'ouverture locale face aux Rangers de New York. Pleine capacité, on le souhaite, on se croise les doigts. Je pense qu'il y avait encore des billets disponibles pour ce match-là. Mais il y aura plus de monde que les 7500 qu'on a vus en finale de la Coupe Stanley. Qu'est-ce que vous voyez pour ce match-là? À quoi vous vous attendez pour ce match-là, Philo?
Ben, écoute, je veux dire, c'est la première fois qu'on va voir l'équipe à domicile après une finale de la Coupe Stanley. J'espère qu'il devrait y avoir normalement une belle ambiance. C'est une équipe qui sera en finale, même s'ils perdent l'année suivante. Bon, on veut remercier les joueurs et tout ça. Je sais pas ça va être quoi la cérémonie d'ouverture. La problématique, c'est est-ce que l'ambiance dans le building et la cérémonie vont être suffisants pour combler le fait que on joue pas très bien présentement. Tu sais, je pense pas que c'est suffisant. Ça, c'est la réalité. Peut-être qu'on peut aller chercher un certain momentum ou au moins un push en début de match. Mais après ça, une fois que tout ça est derrière nous, puis que le match est commencé, puis on retourne à la normale, mais faut que tu joues du bon.
Si les Rangers marquent dans les 2 premières minutes de jeu, ça se peut que ça ralentisse pas mal le monde. Hein?
Ben, tu sais, moi, je pense que en fait, tout va jouer avec le premier but du match. Je pense que le Canadien a vraiment des bonnes chances de gagner là demain, mais il y a beaucoup de Québécois là, qui vont rentrer. C'est la première fois qu'ils vont jouer pour le Canadien un match officiel au Centre Bell. Hey, ils vont être bon français, crinqués, primés là, demain. Là. T'sais, moi, je m'attends à ce que vraiment la foule fasse un effet demain. Écoutez, là, si le Canadien sort flat demain, là,
il y a un problème.
Il y a un sacré problème. Là,
moi, je pense qu'il y a un grand danger pour le Canadien demain, c'est que le joueur le plus crinqué dans l'uniforme pour les deux équipes, ce ne soit pas un joueur du Canadien. Mais que ce soit Alexis Lafrenière. Ouais. C'est l'arrivée de Alexis Lafrenière à Montréal. Il va jouer son premier match. Sa famille va être là. Puis les gens, s'ils marquent un but, là, les gens au Québec, à Montréal, les gens vont être déçus pour le Canadien, mais il ne se fera pas huer. Là, les gens vont être contents de voir
qu'il y a du succès. Penses-tu qu'il sera hué?
Non, ben certainement
non,
pas.
Pas
son premier match. Loin de là. Non. Je pense qu'au contraire, qu'il serait applaudi. Mais tu sais, pour moi, là, c'est un gros défi pour le Canadien parce que Lafrenière, il va être survolté pour ce match-là. Le Canadien devra faire attention à ça parce que c'est un sacré joueur de hockey. Ouais. Je sais que bon, il n'a pas été convaincant à 100% sa première saison, mais c'était sa première saison. Demain, c'est le gars surveillé.
Il a quand même bien fini l'année dernière.
Puis si on regarde, tu sais, les Québécois qui en seront à leur premier match demain soir, oui, il y en a chez le Canadien, mais celui qui a le plus de talent puis de capacité de d'être un joueur qui va faire la différence dans le match, c'est lui.
Ouais. Messieurs, moi, je vais vous dire, pour le match de demain, là, il faut être conscient qu'on débute la saison, il faut être conscient qu'il y a plusieurs nouveaux joueurs qui s'amènent dans cette formation-là, mais en bas de la perfection de ce qu'ils sont capables de donner pour le moment où nous sommes, je serais déçu. Je m'attends à ça pour 3 périodes de jeu. Parce que clairement, ces gars-là ont des choses à prouver. C'était 2 matchs difficiles. Et soit dit en passant, les Leafs de Toronto, ça n'a pas été facile non plus. Vraiment travailler. Tu sais, je veux dire, les Sabres de Buffalo ont été plus performants au point de vue de la compétition. Ils ont beaucoup de choses à prouver. Fait que je m'attends à ça pour 3 périodes de jeu pour le match d'ouverture.
Tampa, ça n'a pas été facile, là, leur première game non plus, là.
Non.
Tu sais, ils ont perdu
la première.
Non,
mais c'est Tampa Bay. Tampa Bay, ils tiraient de l'arrière contre Ottawa.
Ils ont marqué 4 buts.
C'est pas trop long.
D'un coup, il appuie sur l'accélérateur. Puis
mais je pense qu'à un moment donné, le Canadien va redevenir une équipe... c'est encore très, 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 très tôt. Puis à un moment donné, ils vont mettre la machine en marche. Mais comme j'ai dit, je pense que présentement, ils ont de la difficulté à dire, moi, je vais me mettre devant des shots comme je le faisais en finale de la Coupe Stanley. L'enjeu est juste pas encore là. Mm. Et psychologiquement, il faut que tu te rendes pour vouloir faire ces sacrifices-là. Puis je pense que ça va prendre un petit peu de temps.
En tout cas, il y a 20 000 personnes qui vont vouloir que les gars se mettre devant des lancers, ça c'est sûr et certain. Messieurs, on va s'arrêter, on fait une très très courte pause et au retour, il y a un gars qui a vu une grande sommité qui s'appelle Alexander Ovechkin dépasser sa marque de cinquième meilleur buteur dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Ovechkin qui a marqué son 732e filet dans cette victoire de 5-1 face aux Rangers de New York. Eh bien, ce monsieur, appelons-le monsieur, c'est Marcel Dionne. Il est avec nous au retour, restez là. On est de retour à Sortie de zone. Et là, messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Je vous rappelle, à l'entour de la table, nous avons Philippe Quentin de La Presse qui est là, Alexandre Pratt de La Presse qui est là et du 98.5, Jérémy Filosa. Moi, Jérémy Rainville, extrêmement heureux et très fier d'avoir avec nous celui qui a vu un joueur important dans la Ligue nationale de hockey, Alexander Ovechkin, dépasser sa marque étant le cinquième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale. Ovechkin a marqué son 732e filet. Ça veut dire que notre invité en a mis 731 dedans. Ça vous dit-tu l'ampleur de ce qu'il a accompli? Marcel Dionne est avec nous. Bonjour Marcel.
Bonjour.
J'ai l'impression, en voyant ce qu'Ovechkin a fait, c'est là qu'on se rend compte comment c'est impressionnant le nombre de points et de buts que vous avez fait dans la Ligue nationale.
Ben écoute bien, c'est pas moi qui essaie de se dire à moi-même, mais c'est incroyable que ce que j'ai fait. C'est une question que tu t'achemines, t'as une carrière longue, des blessures, pas trop, manque pas trop de parties. Et puis, il faut que t'aies l'intensité, la passion de jouer du hockey. Alors, si tu parles avec tous les gars qui ont compté au moins 700 buts, c'est tous des gars du temps de la renommée. Alors, mais il y a plus de compter des buts aussi, les gars, hein? Il faut qu'on joue la game.
Non, clairement, définitivement, mais quand t'en mets 731 dedans, tu l'as joué pas pire à mon goût. Marcel Dionne, je veux savoir quand Ovechkin a marqué son 732e. On a vu une vidéo, vous étiez là, vous avez dit, regardez, j'avais promis, si tu marques ton 732, je vais mettre la casquette des Capitals de Washington. Comment ça s'est passé, la collaboration avec les Capitals? Comment vous avez apprécié collaborer pour le 732e filet d'Ovechkin?
Ça se comptait ça, on s'était préparé un peu l'an passé. Les gars m'avaient appelé, puis il était très proche, il a manqué les quatre dernières parties de la saison. Alors, ça ne s'est pas fait. Alors, il faut que je me prépare à faire quelque chose. Fait que quand je vous ai envoyé le vidéo, ils l'ont gardé. Mais par contre, quand il m'a dépassé, j'avais un tournoi de golf sur le terrain. Tout le monde m'a vu avec la calotte des Washington. Fait que, le monde le savait tout. Hein? Écoute bien. Moi, j'en ai passé tellement des joueurs. Fait que, sur la vidéo, si tu l'as vu, j'ai dit à Ovechkin, à OV, j'ai dit, ça, là, qu'est-ce que tu fais, c'est le respect. Le respect de la game, le respect d'avoir été un bon joueur, d'avoir une Coupe Stanley, d'être un Russe. Parce qu'en 1972, les Russes, on les connaissait pas autant qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, les joueurs ne montraient pas l'intensité autant quand tu comptes un but. Là, tu vois, Ovechkin, quand il en compte un, il est trop content. Son premier but, aller jusqu'au 732, ouais. Il est pareil. Hein? Tandis que d'autres gars, ils comptent un but, ça ne bouge pas trop. Alors, il ne faut pas que j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'il oublie tous les grands joueurs qu'il a dépassé, parce que moi, c'est la même chose. Quand tu dépasses un Jean Béliveau, un Maurice Richard, un Gilbert Perreault, j'ai joué en même temps avec Guy Lafleur, Henri Richard, ça reste avec toi. Ça, c'est... Moi, je l'ai fait parce que j'ai aimé la game, mais je pense jamais de qu'est-ce que j'ai accompli, parce que ça, moi-même, là, ça n'a pas été dur à faire. Comprends-tu? C'est dur à expliquer.
Attendez, ça, c'est intéressant. Ça n'a pas été dur à faire. Expliquez-vous.
Ben, écoute, je reviens, j'ai aimé ça jouer au hockey, j'ai aimé ça compter des buts. Depuis l'âge de 8-9 ans, c'est automatique. Il y en a un gars, je vais te le dire tout de suite, là, il y en a un gars présentement dans la Ligue nationale. C'est 32 équipes. Ça se voit d'avoir au moins dans chaque équipe un superstar. OK? Mm-hmm. Mais ça ne marche pas de même. Ça se voit au moins d'avoir un gars dans toutes les équipes, fait 13 millions pour être un gars capable de compter 40-50 buts. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y en a un vrai. C'est Connor McDavid. Il n'a rien que. Quand tu dis que tellement de joueurs, comment ça qu'il n'a rien que comme ça? Alors, Ovechkin, lui, c'est un franc-tireur. C'est un gars incroyable. Tous ses buts, il y en a, c'est son spectaculaire. C'est avec la force. Puis quand des fois, ça ne dit pas de jouer, là, tu le regardes dans la zone, c'est le powerplay, là. Il attend que ça passe. Il est un lancé. Il me dit, quand il a fait la chose, il dit à un des messieurs de Washington, il dit, on va s'échanger de hockey. Il dit, je vais lui donner un de mes hockey. Il dit à Marcel, donnez mon hockey. Puis il dit, Marcel qui m'en donne un. Ben, moi, j'ai répondu, OK, fais sûr qu'il envoie son hockey le premier, parce que j'en ai pas d'hockey à donner.
Jérémy Filosa, ouais. T'as une question, vas-y.
Monsieur Dionne, on regarde Alex Ovechkin, puis bon, les autres qui sont devant lui, on sait où est-ce qu'ils se sont arrêtés, mais où est-ce que Alex Ovechkin va s'arrêter lorsque ce sera terminé pour lui dans 5 ou 6 ans? On va le retrouver où dans cette hiérarchie-là? Est-ce qu'il sera le meilleur de tous les temps?
Bah, c'est une affaire, il a bien commencé. Il a deux à partant. Écoute bien. Moi, comme j'approchais une saison, c'était à un but à tous les deux games. Alors, tu as 80 games, tu dis, en compter 40. J'ai pas quand même 50, ça rend la vie, là, 60. Fait que là, il y a des games que tu n'es pas capable de compter. Tu as 2, 3 games. Là, tu peux. Il y a des games que tu joues mieux, même si tu n'as pas compté. Alors, il faut que ça soit un ballon. Mais quand tu vas 3, 4 parties, il faut que tu prennes un tour de chapeau. Prends un tour de chapeau, personne ne s'en souvient. Là, tu continues avec ta moyenne de vue. Comprends-tu? C'est une affaire drôle à dire. Je m'en souviens, il y avait un joueur de hockey, Roy, qui jouait avec les Sabres de Buffalo. Puis, il y avait bien de la misère. J'ai dit, écoute, là, j'étais allé en bas dans la chambre. J'ai dit, écoute, alors, tu sais, t'as de la misère un peu, là. Hein, se concentre-toi d'une game, là. Personne ne va s'en souvenir, tu vas te ramasser avec tout le monde. Je te veux ça, dans une semaine après, le compté 2, il a compté 3, il m'a dit, là, je comprends la situation.
C'est ça. Hey, juste,
Derek Roy,
juste rappeler aux gens que présentement, Ovechkin est à 9 buts du 4e rang de Brett Hull, qui en a 741. Il est à 34 buts du 3e rang de Jagr, qui est à 766. Il est à 69 buts du 2e rang détenu par Gordier, qui est à 801. Et à 162 buts de Wayne Gretzky, qui détient le premier rang à 894. Voilà le défi qui s'avère assez important pour Alexander Ovechkin. Philippe Quentin, une question.
Marcel, je voyais cette semaine que la Ligue junior majeure du Québec va honorer Guy Lafleur, va retirer le numéro 4 là, du chandail de toutes les équipes. Puis quand je pense à Guy Lafleur junior, ben, je peux pas faire autrement que penser à Marcel Dionne junior, cette fameuse série en 71, les remparts contre les Blackhawks de Sainte-Catherine's. Vous faites-vous encore parler de cette série-là? Est-ce qu'elle vous marque encore?
Si t'as 60 ans, t'en parles.
C'est ça, je suis là-dedans.
Fait que, comment tu peux un astérique que tu mets à côté, là, et que je te vous dis, tous les gars, là, à partir de ce moment-là, là, ça a été à l'envers quand j'ai tourné professionnel. Ça ne s'est jamais placé que le temps que j'ai commencé à jouer, oui. Pee-wee, Bantam, joueur contre Gilbert et Guy Lafleur. L'affaire de numéro 1, numéro 2, ça ne m'a jamais fatigué. Si des trois voulaient m'avoir, mais j'ai tombé dans une situation des organisations. Ça ne marchait pas. Puis c'est difficile parce que moi, quand j'étais arrivé à Détroit, j'avais de la misère à comprendre que j'étais à 20 ans. Là, écoutez, les gars, si j'avais quoi 18, là. Chose au vie, il m'a raconté au moins 40 dans 2 ans, il me courait encore. Mais Gabin, je ne comprenais pas ça qu'après deux mois avec le club de Détroit, qui avait des vétérans à 14 ans, 15 ans, que j'étais le meilleur joueur. Je n'étais pas préparé pour ça. J'avais hâte de, tu sais, Gordy Howe n'a juste se retiré. Alex Delvecchio, il avait des cheveux gris, j'en revenais pas, c'est très chaud. Ça n'a pas de bon sens, je joue avec mon père, tu sais. J'ai bien eu de la misère à m'ajuster avec ça, jusqu'à temps que ça s'est replacé. Comment est-ce que. Tu sais, tu fais des étapes, hein? Ouais. Bon, tu veux payer, oui, tu vas. Les gars te songer. Là, j'ai respecté ta toute ta tour avec. Quand c'est arrivé là, c'est wow, ça n'était pas pareil. Hein.
Alexandre Pratt,
mais bon, je vais lire la question tout à l'heure que tu disais. Si on veut signer, si c'est possible, j'ai pas répondu. Là.
Non, mais allez-y là-dessus.
Regarde bien ça. Encore quand je suis arrivé à Détroit, Red Berenson, là, c'est là que je mentionne des joueurs parce que maybe le monde ne le savent pas. C'est un grand joueur de hockey. Je vois à Montréal aussi, Red. Il arrive et dit, Marcel, ma bière à côté, il dit, jamais, personne ne va battre le record à Gordy Howe. Parce que Gordy Howe m'a juste de se retirer. Regarde ce qu'on est rendu aujourd'hui avec Wayne Gretzky. Ça passe à l'avant. Alors, c'est possible. Je te dis, moi, lui, là, il a un goal. Hein? Là, on n'aurait jamais pensé qu'un Russe viendrait en Amérique du Nord, puis d'être dans ces situations-là aussi. Fait que je le regarde, il est fort, il est habile. Là, son jeu, son style de jeu, c'est pas le plus beau, mais il est un lancé. Il finit au filet. Les compteurs, les bons compteurs se dirigent là. Quand Connor McDavid, si le monde voit sa partie de hockey, là, fin que le watcher, lui, quand il saute sur la glace, là, il va toucher à la rondelle 3-4 fois. Il y a des gars que la caméra, là, tu dis, ben, où est-ce qu'il est, le gars? Il y a eu 2-3 chiffres, il n'a même pas touché à la rondelle. C'est pas démenti, ça, là.
Ben non.
Fait que, Ovechkin, c'est un gars, des fois, il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien. Il se tient sur son spot. Mon petit chum Baxter, il est là sur le power play. Il est là, OK, désert. Quand il est là, le gardien de but. Moi, je le regarde, je dis, si c'est la coach, je dirais au défenseur, ceux qui jouent,
vas-tu?
Son 5 sur le power play. Laisse un gars là-dessus, puis les autres 4 ont 3, ils se comptent.
Non, mais c'est incroyable. Les coachs, ils disent ça, place un gars dessus, le goaler le sait, tout le monde le sait, puis il marque pareil. Ça, c'est pareil. Ça vous dit la force, la force de son
lancer. Wayne Gretzky disait, là, tu rates toutes les chances que tu prends pas, là, lorsqu'il parlait de tirer. Puis à un moment donné, j'avais une discussion avec Alex Ovechkin, puis c'était l'année, ça fait 3 ou 4 ans, il y avait plus de 50 buts, il était le seul joueur près de 50 buts, tous les autres étaient en bas de 40. Et j'ai dit, comment tu fais pour garder une certaine constance comme ça? Il m'a dit, I shoot the puck. J'ai dit, oui, mais quand ça marche pas, I shoot the puck more. C'est ça qu'il m'a dit. Il y avait 4 mots dans sa phrase, mais ça voulait tout dire. Casse-toi pas la tête. Quand tu as une opportunité de tirer au filet, vas-y, lance. Shoot the puck. Et surtout avec son tir à lui, c'est ça.
Ben justement, Marcel, je suis curieux de vous entendre là-dessus. C'est Alexandre Pratt de la presse. Vous avez quand même réussi là, 12 saisons consécutives de plus de 30 buts. C'est rare. Là. Maintenant, aujourd'hui, les joueurs fonctionnent un petit peu plus par séquence. Tantôt, vous avez même dit que c'était facile là, quand même de faire ça. C'était quoi le secret, je veux dire, pour être capable de produire tant sur une si longue période?
C'est la préparation. C'est d'aimer la game. De ne pas te laisser les situations t'embarquer trop. J'ai tellement joué avec des équipes qui ont tout échangé, les joueurs, ça n'arrêta pas. Moi, j'ai toujours dit à Montréal, quand les années 70, quand il y a les coupes scellées, je l'avais dit au journaliste, je lui ai dit, écoutez bien, penses-tu que c'est facile de voir le sangrer? Oh, mais t'as pas de pression. Ah, oh, correct, il n'y a pas de pression. Mais j'ai répondu, je dis, attendez, mais que le pendule, il change, il commence à perdre. Ça va être la chicane du partout. Fait que c'est arrivé, hein. Montréal a passé des années dures. Mmh. Il y a des équipes, tu sais. Il y en a 32. Fait que des équipes, là, que, autant que Toronto sont préparés, tu sais, ça, là. La Stanley Cup est prêt, là. Ça s'en vient. Ils vont l'avoir encore. Fait que ça, puis là, 1967. Parce que c'est tellement difficile. Tandis que, dans mon temps, on savait c'était qui. Admettons, à 14 équipes. 12 à 14. Ça va être des bonnes équipes de suite, parce que les originales 6, Boston, Rangers, Montréal. Tandis que là, c'est n'importe qui, c'est pas le même. Vous autres les voyez toutes, les parties, mais
ouais.
Moi, je connais même pas les joueurs. Il y a des gars que j'en connais, mais c'est incroyable. La seule affaire que je vois sur mon iPhone, mon téléphone, il y a TSN nous offre la même chose. Un autre joueur vient de signer pour 75 millions. Un autre joueur vient de compter 50 millions. Là, si je compte 54 en 8, c'est ça. C'est quoi que. C'est qu'est-ce qu'il y a là, ça?
Ah, c'est incroyable. Alors, à 731 buts.
Ça va changer. Regarde votre style, là, ce que vous êtes rendu, vous êtes aujourd'hui, là. Hein? Vous êtes dans un studio, on se parle, ça. Alors, c'est ça que c'est aujourd'hui. C'est, les sports sont tous comme ça. Mais un gars comme Ovechkin, c'est la même affaire qu'il arrive avec Tom Brady. M'en dit la même question. Là, il vient de sortir et il veut jouer jusqu'à 55 ans. Ça fait mon affaire parce qu'il est gagné pour eux autres, il a gagné.
On est en conversation avec Marcel Dionne, qui était détenteur du 5e rang dans l'histoire pour le plus grand nombre de buts, qui a été devancé par Alexander Ovechkin cette semaine dans une victoire, c'est mercredi, une victoire de 5-1 des Capitals face aux Rangers de New York. Marcel Dionne, vous regardez le hockey, vous avez dit peut-être pas connaître tous les joueurs, vous regardez le hockey. Aujourd'hui, là, Marcel Dionne, là, mettons, là, dans le meilleur de sa carrière, il en marque combien dans la Ligue nationale aujourd'hui, Marcel Dionne?
Je te dis la même affaire, pourquoi ça changerait? Mais là, c'est parce que le hockey a changé. Moi, j'aimerais ça voir juste dans le camp d'entraînement l'année prochaine. On va retourner, on va remettre la ligne rouge. Mets la ligne rouge.
Moins vite, hein?
Là, ça veut dire, ça ralentit. Là, tu vas être à tête d'un autre. Les défenses peuvent pas reculer de suite. Un jeu différemment. Ils sont tellement, les joueurs de défense, c'est les joueurs d'avant. Tu sais, c'est Headman, hein, tu l'as vu l'année passée, t'aimes pas. Le gars 6 pieds 4, mobile, c'est pas un gars qui joue avec la rudesse, mais c'est un avant. C'est pareil comme Paul Coffey quand il arrive un jeu en arrière, il tombe parce que ces jeux-là, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est que il faut, c'est le style de jeu que vous voyez. Tout le monde patine. Nous autres, dans le temps, il y avait deux lignes et demie. Et la quatrième ligne, ben, c'était tout pareil. Tout le monde les avait. Mais la quatrième ligne, pas de fil aussi vite que ta première ligne.
Ah, clairement. Clairement, ça fait une grande différence, ça, définitivement. Oui, Alexandre, ouais, t'as une question?
Mais Marcel, je serais curieux de savoir, là, vous regardez encore le hockey, je sais que vous suivez ça pas mal. Avec qui vous aimeriez jouer là, sur un trio présentement dans la Ligue nationale?
J'avais dit ça une fois, c'était Todd Bertuzzi. Il jouait à Vancouver, la manière qu'il jouait. J'avais été notre roi de gueule, puis il l'avait vu, puis il était tout seul. Puis là, j'avais dit, quelqu'un demandait une question, j'ai dit, moi, Todd Bertuzzi, ça, t'as vu, j'aime son style, up and down, il est physique, et tout ça. Ça été, j'avais pas besoin d'être compteur, là. Ça veut dire, joue la position, prépare-toi à jouer, tout ça. Après, mon tir en face, je me suis assis, puis deux minutes après, lui, Ignarus, t'en souviens-tu, qu'il y a un accident avec moi, OK? Fait que là, tu voyais qu'il était pas à son aise, hein, il avait peur, peut-être. Quelqu'un il demande des questions de ça. Il vient me taper sur l'épaule et dit Marcel, je te remercie tellement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ben, j'ai dit, moi, dis-moi, père. Si je ne le pensais pas, je ne te l'aurais pas dit. Fait que, c'est, moi, j'ai joué avec des gars, là. Tu sais, moi, dis-moi, père, là. C'est même que ça marche, OK? Même je vois le Canadien. Voilà, les autres, il y a beaucoup des joueurs qui n'ont jamais la chance de devenir ce qu'ils devraient être. Mm. Ils sont mis dans une position. Puis chose, le plus grand instructeur de la Ligue nationale, Scotty Bowman, m'a renforcé avec ça, m'a allé un petit peu loin, là, avec Ralph Backstrom. Ralph Backstrom était un de mes anciens coachs à Los Angeles. C'était un grand joueur de Canadien. Qui a dit, gars, ça va rester avec la question que tu veux demander. Il dit, Marcel, il y avait Jean Béliveau, il t'appelait Henri Richard. C'était les deux rois de centre. Là, le troisième, fait que lui, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fait, ils l'ont mis à checker. C'est un bon joueur. Il se regarde les tapes en avant, il était capable de scorer ça. Puis Scotty Bowman, il savait ça. Il dit, Marcel, il n'était jamais capable de jouer à son potentiel avant qu'il l'aille. Il était capable de compter plus de buts. Ils l'ont réutilisé. On a assez, là. Et, occupe-toi pas de ça. Fait que, moi, j'ai joué avec des gars, je suis juste regardé dans leur style. Quand j'ai la rondelle, regarde-moi pas. Va-t'en dans un trou. Parce que là, si va-t'en là, la rondelle va venir. Mais là, si tu vas pas là, je te la donne plus, la rondelle.
C'est ça, exact. C'est ça. Fais ça une fois, puis après, tu l'auras plus.
On reculera, tu sais, pas aussi loin, mais je me souviens d'avoir une discussion avec Jason Spezza il y a une couple d'années sur, tu sais, les difficultés de marquer des buts, puis tout ça, puis il me disait, au début de ma carrière, puis Jason Spezza, on ne retourne pas 50 ans, là, il dit, j'étais sur le bord de la... J'étais assis sur la bande, puis j'attendais que l'équipe adverse embarque la quatrième ligne, puis la mission, c'était, dès que la quatrième ligne embarque, toi, t'embarques. Et il dit, j'étais assis sur la bande, prêt à embarquer, puis j'ai ramassé des points contre les quatrièmes lignes. Il dit, aujourd'hui... Tu peux plus faire ça.
Non,
tu peux
plus faire ça. Le quatrième trio est très, très fort. Marcel Dionne, on veut prendre quelques instants pour vous remercier énormément pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Encore une fois, je le dis, avec ce 732e but d'Alexander Ovechkin, j'ai l'impression qu'on voit l'ampleur du record que vous avez. Et peut-être juste une petite dernière, pas très longtemps. En terminant, Marcel Dionne, qu'est-ce qui vous rend le plus fier d'être le sixième pointeur de l'histoire de la Ligue nationale avec 731 buts? Ou d'être le meilleur pointeur de l'histoire en tant que Québécois dans la Ligue nationale de hockey?
Certainement, écoute, là, c'est facile, c'est totalement d'être un Québécois. Écoute, je respecte Mario Lemieux, je sais ça. Moi, je sais ce que j'ai fait, puis je m'en vous dis, les gars, quand tu finis ta carrière, tu as joué longtemps, il te reste une vie. Le hockey m'a tout donné. J'ai pris des erreurs que quand j'ai connu le hockey, joué là longtemps, j'étais allé en business, je suis devenu un homme d'affaires, Puis je me suis promis que je ne travaillerai pour jamais personne. Parce que j'ai vu qu'est-ce que ce monde-là a fait à des joueurs qui c'était pas leur faute. Puis je m'en dis une affaire. Je l'ai fait, je l'ai accompli. Puis c'est ça que le hockey m'a donné. Je suis bien satisfait de ça. J'ai appris à respecter le monde, et le monde des partisans, comment est-ce qu'ils apprécient ça. Ils m'appellent de tout partout, là. On prend ça un matin, là, Marcel, c'est correct, FaceTime, puis là, FaceTime, puis les Zoom. Il faut que tu vieillisses avec la population. Alors, c'est ça que ça m'a donné la chance. Là.
Wow, bon, merci beaucoup,
Marc. Un petit gars de Drummondville.
Et voilà, un gars de Drummondville. Hey, rendu sur Zoom. Ben écoute, oui.
Yvan, m'a dit une affaire. M'a dit tout de suite une affaire. Yvan Kounoui, il est plus grand que moi. C'est correct.
Marcel Dion, merci énormément d'avoir été avec nous.
Bien gentil, les gars.
Merci.
Merci, au revoir. Voilà, messieurs, on est en compagnie de Philippe Quentin, Alexandre Pratt de La Presse, le collègue Jérémy Filosa qui est là. On arrive à la dernière portion de ce podcast, troisième édition de la troisième saison du podcast Sortie Zone. Nous avons des questions du public, mais je débute avec Brady Tkachuk. Brady Tkachuk qui finalement achète le plan des sénateurs d'Ottawa. Souvenez-vous, dans la dernière édition du podcast, on disait, si Tkachuk hésite, peut-être qu'il hésite à acheter, c'est le plan de relance des sénateurs. Ben, finalement, ça veut dire que tout le monde a un prix. Et pour lui, ça a été 57,5 millions de dollars pour 7 ans. Et Tkachuk qui arrive en plus en plein match et salué par la foule. Comment vous avez trouvé ça, Philippe? Je commence avec toi.
Ah ben écoute, c'est une nouvelle extraordinaire pour les sénateurs d'Ottawa. Le 7 ans, c'est majeur pour cette organisation-là, justement pour toutes les raisons que tu viens de mentionner, Jérémy. S'il s'était battu, lui, Tkachuk, pour un contre-pont de 2 ans, 3 ans, tout le monde aurait dit hey, tout ce qu'il attend, c'est de décarpir de là le plus vite possible quand la convention va lui en donner le droit. Alors là, le message qu'il envoie non seulement aux fans, mais à tous ses coéquipiers, tous les jeunes qui sont là, c'est absolument fantastique. 7 ans, là, c'est une très longue période de temps. Puis pour lui, c'est pas si mauvais parce que son contrat commence dès maintenant. Donc, dans 7 ans, il sera autonome puis il sera encore relativement jeune. Donc, il pourra se négocier une autre entente à Ottawa ou ailleurs. Donc, grosse nouvelle pour les sénateurs. Et tout ça m'amène à poser cette question qui pourrait être le sujet d'un prochain podcast. Mais dans 3 ans, c'est qui la meilleure équipe? Et peut-être même avant, le Canadien ou les sénateurs?
Ouais. Ouais, ben la problématique avec le Canadien, c'est qu'il y a certains contrats dans quelques années qu'on va se dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a peut-être des contrats qui vont mal vieillir chez le Canadien. C'est le sénateur, ça me surprendrait. Là, c'est une équipe qui est très jeune et tout ça. Donc la question se pose. Mais moi, j'étais certain qu'elle allait signer un contre-pont. Je me suis dit, ils vont trouver le moyen de s'entendre, mais ça risque d'être 2-3 ans, puis après, ça risque d'être compliqué. Je suis surpris.
Vous avez entendu Pierre Dorion qui a dit à un moment donné, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé son agent, il a dit, gars, faut qu'on règle ça, là, ouais, go, on y va.
Puis ça va influencer d'autres gars. Ça va influencer d'autres gars à dire, ben, regarde, lui, il reste, je vais rester moi aussi.
C'est sûr. Alexandre?
Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Je pensais pas, honnêtement, qu'il était pour signer pour 7 ans. En effet, ça envoie un bon message d'abord aux partisans, là. Ça veut dire, écoutez, là, ça va être 7 années excitantes, là, Chabot, et Tkachuk sur ce contrat à long terme, quand même, c'est les deux meilleurs joueurs de la formation. Et ça envoie un message fort quand même au reste de l'équipe là, de dire, écoutez, le projet, là, je vais rester avec vous pour les 7 prochaines années, puis on va le construire ensemble. Là, parce que eux, là, ils ont eu des gros contrats là, qui vont s'en venir, là, notamment Josh Norris, puis après ça, ils vont rentrer chez Tutsley et tout ça. Donc, c'est une excellente nouvelle. Sérieusement, là, être partisan des sénateurs, ça a été difficile là, dans les dernières années. Là. Les beaux jours sont devant.
Ça va diminuer la pression sur le propriétaire aussi, beaucoup, là, qui se fait tout le temps accuser de ne pas vouloir ouvrir ses poches et tout. Là, ça,
mais faudrait, j'espère ça. Que le propriétaire sera à l'extérieur de tout ça, puis regarder ça en mangeant,
nous
mangeant
le souhaitons tous.
Des fruits, en buvant de l'eau, parce que moi qui est impliqué, j'ai l'impression que tout le monde est plus heureux du côté d'Ottawa. Bon, messieurs, question du public. Et là, je vais y aller à tour de rôle, j'espère que vous êtes prêts, OK? Et je n'ai pas dit quelle était la question
non,
du
c'est
public.
Ça.
Vous ne savez pas du tout, pas. du tout. Mais à tour de rôle, vous devez répondre, et Philo prépare toi, je commence avec toi.
OK, bon.
C'est Yannick Baudouin qui nous demande, que faites-vous avec le Canadien pour créer une étincelle, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe? Parce qu'on sent que ce club-là, dans les deux premiers matchs, était un peu éteint. Qu'est-ce que tu fais pour créer une étincelle? Fait que là, faut que tu me trouves une bonne histoire. Ouais.
Ben, moi, je te parlerai pas d'étincelle. Moi, je vais te donner, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit tantôt. Moi, je pense que ça va se faire tranquillement, mais sûrement, chez le Canadien. T'sais, on va avancer dans la saison, puis on va oublier ce qui s'est passé avant. Les matchs vont commencer à devenir plus importants. On va commencer à voir, tu sais, les fêtes qui arrivent et tout ça. Et on a vu beaucoup d'équipes dans le passé qui se sont rendues loin l'année précédente et qui ont eu des débuts de saison lent. Cette année, là, ça a été l'été le plus court de l'histoire pour toute franchise, parce que on a terminé l'année tellement tard. Ça, il y a des gars qui ont encore des bobos, il y a des gars qui reviennent de blessures puis qui sont pas à 100% confiants de pouvoir donner le maximum d'eux-mêmes. Puis je pense que l'expérience qu'ils sont allés chercher l'année passée, la maturité va faire en sorte qu'à un certain moment donné, ces gars-là vont se mettre à on. On dit que les bonnes équipes sont capables de mettre la machine à on quand c'est le temps, mais moi je suis confiant qu'ils vont être capables de le faire, mais ça va, ça, tu sais, je pense que le premier mois malheureusement risque d'être compliqué.
OK, Philippe Quentin, qu'est-ce qu'on fait de partir le feu?
C'est une sacrée bonne question. OK, j'y vais avec mon idée. Je suis Dominique Ducharme. Demain matin, avant l'entraînement, je fais venir Nick Suzuki dans mon bureau, puis je lui dis, Nick, garde, ça passe par toi, mon homme. C'est toi là, qui vas réussir à tirer cette équipe-là. Faut que ça commence aujourd'hui. Assume. T'as eu le gros contrat, on t'aime, t'es un joueur potentiellement extraordinaire. Sur la patinoire, affirme-toi. C'est ton équipe, c'est toi qui vas la tirer en avant pendant des années. C'est sur toi qu'on mise. Sans lui mettre, c'est lui mettre beaucoup de pression. Regarde, il est fait pour ça, prendre la pression. Il l'a déjà prise dans le passé. Moi, c'est ce que je ferais. Je dirais, regarde, vas-y, c'est ton club. Avance.
Alexandre?
C'est très bien.
T'aimes ça, toi? Ça part l'étincelle.
Non, mais c'est sûr que ça part.
C'est l'étincelle. La question, c'est l'étincelle.
Moi, je pense que l'étincelle va venir vite aussi par Mike Hoffman. C'est un joueur limité défensivement. Là. Personne ne va se tromper là-dessus. Mais c'est un excellent tireur. Et il va jouer sur la première vague d'avantage numérique que les autres joueurs aiment ça ou pas. T'sais, la mayonnaise, ça va prendre du temps à pogner à 5 contre 5. Mais en avantage numérique, il devrait faire une différence assez rapidement. Et ça va bumper quelqu'un. Et là, il y a des joueurs
qui vont du jeu un peu au coach, tu peux décider qui va être là, qui sera pas là.
Ça en donne beaucoup et ça permet à la limite au coach de punir un petit peu les tricheurs là présentement. T'sais, on risque d'avoir un des bons joueurs tomber sur la deuxième vague ou même être exclu comme ils ont fait hier avec Armia. Ça va pincer. Il y a des vétérans qui vont sortir de l'alignement là, dans les 4-5 prochains jours. Hoffman est supposé revenir au jeu au début de la semaine prochaine. Il y a des joueurs qui vont se sentir pincés là-dedans. Leur orgueil va être visé. Je parle de joueurs qui étaient en finale de la Coupe cette année l'année dernière.
Qui est le dégât comme Toffoli?
Je pense Armia. Mm-hmm. Tu sais, clairement, Armia, présentement, je suis pas sûr qu'il va rester dans l'alignement.
Parce que fait une couple de fois,
ben, je pense qu'il joue pas pour rester dans l'alignement, présentement, mm-hmm. Ben honnêtement. Là, alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, mais je pense que c'est possible. Tu sais, Toffoli peut-être blessé, c'est pas clair pour moi, là. Mais ça se peut que Toffoli aussi sorte du premier trio puis Hoffman aille prendre sa place.
Juste pour compléter sur ce que je disais, là, on est des journalistes ici autour de la table. Okay? C'est comme si, là, tu viens de sortir un gros dossier. T'as travaillé dessus pendant 3 mois. Là, tu sors ça. Ça fait un gros splash dans les médias. On est fiers. On serre la main dans le bureau. On a travaillé fort. Là, tu prends tes 2 semaines de congé. Là, tu reviens de ton congé. Puis là, tu dis, ah ouais, go. T'as ton boss. Il dit, go. Là, tu dis, oh, une minute, là. Je viens de t'en sortir une grosse. J'ai travaillé pendant 3 mois comme un chien. Là. Je reviens de vacances. Donne-moi le temps de. Hein?
Ouais, mais le problème, Jérémy, c'est qu'il y a tellement de joueurs qui sont nouveaux dans l'alignement présentement. Il y a tellement surtout de piliers finale comme ça, qui sont pas là. Ils ont pas le temps d'attendre. Je veux dire, la saison, elle sera pas miraculeuse. Ils sont poignés sous le plafond salarial.
Puis on s'est posé la question sur Armia l'année passée. On leur signe-tu, on leur signe pas, on leur signe-tu.
Attendez, avec Armia, je vous dis, c'est un joueur. Ça va être un joueur important.
Il va être bon, mais il faut qu'il soit pincé, je pense, un petit peu avant que ça fonctionne.
Faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas le choix. Travailler, de s'impliquer exactement. Physiquement. Moi, messieurs, si je veux créer l'étincelle, vous savez que il y aura match d'ouverture locale. Ça se passera face aux Rangers samedi. Et je suis convaincu qu'on va hisser la bannière de champion d'association. C'est ce qu'on va faire. J'en suis convaincu. L'association de l'Ouest, à moins que je me trompe.
Ben oui,
donc, on devrait voir champion de l'association de l'Ouest. Les gens vont applaudir. Et si j'étais Dominique Ducharme, je dirais dans le vestiaire à ceux qui étaient là, je veux vraiment vous remercier. Merci. Mais quand vous allez voir la bannière monter, ça, c'est la fin de ce chapitre-là. Et c'est ce que John Cooper a dit à son équipe. Quand tu vois la bannière qui monte, ça veut dire que c'est terminé. Ça veut dire que tu es obligé de recommencer à travailler. Que tu veuilles pas, que tu sois fatigué ou non, tu es obligé de commencer à retravailler parce que sinon, tu n'auras jamais la chance d'avoir proche une bannière qui monte.
Fait que t'as plus pas facile à dire qu'à faire.
Ouais, mais on va voir si le Canadien est capable de répondre à tout ça. Hey, en terminant, messieurs, ça vous tente-tu une petite prédiction pour le match de demain, ouverture locale, gagne-père? On fait ça à tour de rôle. Alexandre, t'as de l'air parti. Là, tu vas me dire qu'Armia va marquer 2 buts dans le match de demain, non?
Je pense que
le
Canadien va gagner, par exemple.
OK, victoire du Canadien. Ouais. Un gros match ou un match serré?
Un match avec bien des buts.
Fait qu'un 6-5, c'est ça qu'on comprend. Genre. OK. Philippe Quentin?
4-3 Rangers, Lafrenière en prolongation.
Oh! Le spectacle, Lafrenière.
Ouais, moi, je vois les 3-2 Canadiens avec un but du Canadien en prolongation.
Ouais, OK. Moi, je vais y aller avec une victoire du Canadien 3-2, extrêmement serré comme ça. Mais je pense que le Canadien va commencer fort, peut prendre les devants 2-0. Puis à un moment donné, malheureusement, il ne sera peut-être pas capable de continuer sur le tempo. Voilà ce qui complète cette troisième épisode de cette balado sortie de zone. Gros merci à Philippe Quentin de La Presse qui était avec
nous. Merci.
Merci beaucoup, Philippe. Alexandre Pratt également. Merci, Alexandre. Le collègue Philo, merci d'avoir été là.
Ça fait plaisir.
Gros merci à Mario G. Langlois qui était à la technique. Nous, on se donne rendez-vous lundi. lundi prochain pour une autre édition de Sortie de zone.